Le débat du jour. Aurélien Devernois.
Bonsoir à toutes et à tous. Une allocation mensuelle versée à toutes et tous sans condition d'âge, de revenus ou de situation sociale. Une douce utopie, aurait-on dit il y a encore quelques années. L'inclusion de ce revenu universel, comme on l'appelle, au programme de Benoît Hamon, candidat à la présidentielle française de 2017, lui avait d'ailleurs valu critiques et railleries. Et pourtant, jamais ce projet n'a suscité autant d'intérêt de la part de dirigeants politiques que ces dernières semaines. Car avec la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19, le dénuement dans lequel de nombreuses personnes se sont retrouvées rapidement plongées a, semble-t-il, éveillé certaines consciences. Mais si l'idée d'un filet de sécurité fait son chemin, l'universalité est-elle pour autant vraiment envisagée? Et même si c'était le cas, n'y a-t-il pas des incompréhensions sur ce qu'est cette idée? Et le projet en lui-même ne recèle-t-il pas des limites? Bref, le coronavirus va-t-il réellement servir d'accélérateur au revenu universel? C'est le débat de RFI ce soir.
RFI.
Et pour en parler avec nous par téléphone, évidemment, distanciation oblige, Marie-Alette Grard, vice-présidente de l'ONG ATD Quart Monde. Bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Éric Yafil, également économiste, enseignant et co-auteur de Revenus de base, un outil pour construire le 21e siècle, et de Revenus de base, comment le financer, deux ouvrages parus aux éditions Yves Michel. Bonsoir.
Bonsoir.
Puis on attend Julien Damon, un sociologue et professeur associé à Sciences Po, qui devrait nous rejoindre d'ici quelques secondes. Alors, nous commençons avec vous, Jean-Éric Yafil. Commençons tout d'abord par définir ce dont on parle. Allocation universelle, revenu de base, différentes appellations pour un même concept finalement. De quoi s'agit-il concrètement?
Alors, je voudrais dire qu'il y a deux revenus de base, le vrai, l'authentique, et puis après des versions amoindri, si j'ose dire. Mais le vrai, l'authentique revenu de base, c'est un revenu d'allocation inaliénable, inconditionnel, versé à tous les résidents d'un pays. Donc il est cumulable avec d'autres revenus, des revenus du travail, des revenus du capital ou des revenus de remplacement. Il est distribué à tous les membres à partir de 18 ans jusqu'à la mort. Sur une base individuelle, chaque individu touche son revenu. Et il est versé sans contrôle de ressources, donc on peut le toucher, même qu'on gagne 0 euros ou 10 000 euros ou 15 000 euros par mois par ailleurs, on aura en plus notre revenu de base. Et il est versé sans exigence de contrepartie. On n'a pas besoin de travailler pour l'avoir, on n'a pas besoin de le demander pour l'avoir, on n'a pas besoin de démontrer qu'on fait des efforts pour trouver du travail pour l'avoir. Donc, et enfin, son montant, il sera défini par la communauté politique.
Alors finalement, riche ou pauvre, la somme, quelle qu'elle soit, sera la même.
Effectivement. Après, il y a le revenu de base ou le revenu universel en version, je dirais, plus applicable à court terme, qui n'est pas versé aux riches, mais donc qui est versé uniquement aux pauvres et qui, d'après le montant, diminue progressivement à mesure que le revenu de la personne augmente. Donc on dit que c'est un revenu dégressif. Et l'avantage qu'il aurait, c'est que par rapport à la situation actuelle ou au RS actuel, on peut le comparer au RS actuel, à la différence qu'il serait versé de façon inconditionnelle, dans le sens où on n'aura pas besoin de démontrer qu'on fait des efforts pour chercher du travail pour le toucher, d'une part. De façon automatique, on n'aura pas besoin de le demander pour le toucher. Mais en revanche, il sera dégressif.
Alors, vous parlez du RSA, c'est le revenu de solidarité active qui existe en France. Ce n'est donc pas la même chose parce que le RSA, il est quand même réservé à des personnes de conditions modestes qui gagnent peu d'argent.
Effectivement, mais dans une première étape, pour mettre en œuvre un véritable revenu universel, disons que ce RSA amélioré et versé sans condition sera déjà une bonne première étape pour éviter qu'il y ait des gens qui ne touchent pas le RSA faute de l'avoir demandé. Il faut savoir qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont droit au RSA aujourd'hui, mais qui ne le touchent pas parce qu'ils ne le demandent pas, parce qu'ils ne sont pas au courant ou parce qu'ils ont peur de faire les démarches pour plein d'autres raisons.
Alors ça, on va en parler justement avec Marie-Alette Grard, mais tout d'abord, Julien Damon nous a rejoint. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors vous êtes sociologue, professeur associé à Sciences Po et auteur de l'ouvrage Quelle bonne idée, sans proposition plus ou moins saugrenue dans l'espoir fou de refaire le monde aux éditions PUF, Presse universitaire de France. Alors, on l'a dit en introduction, hein, ce revenu universel, eh bien, il est en train de séduire certains dirigeants politiques confrontés à la crise multidimensionnelle du coronavirus, sanitaire, économique, bien sûr, et sociale. Il y a notamment la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, qui s'est dit très intéressée, et c'est également le cas en Espagne, dans certains pays nordiques. Comment vous expliquez cet engouement soudain pour le revenu universel, le revenu de base?
Bon,
de mer depuis même quelques dizaines d'années, et à chaque occurrence d'une crise, ça reprend un peu d'ampleur. Alors il est vrai que depuis une demi-décennie, depuis 5 ans, ça revient beaucoup à la mode dans les discussions et un peu partout dans le monde, confondant un peu d'ailleurs différentes formules telles que ça a pu être exposé précédemment. Il faut avoir à l'esprit qu'il n'y a qu'un seul endroit au monde où il existe un revenu parfaitement inconditionnel, détaché de votre condition familiale, de vos revenus, d'obligations d'activité. C'est en Alaska où 600 000 personnes chaque année peuvent bénéficier d'un chèque qui est tiré sur la rente pétrolière. Mais je pense en effet que lorsqu'on se demande de quoi demain va être fait, on sort ce type de solution sans regarder ce qui est véritablement diabolique en la matière, les détails d'un tel projet.
Alors, les détails, justement, c'est le premier, comment on fixe le niveau d'allocation. Finalement, entre donner 200 euros à tout le monde et 1000 euros, voire 2300 euros, puisque c'était la proposition qui avait été faite en Suisse ou soumise à votation en Suisse il y a quelques années, on n'est pas dans les mêmes, on va dire, dépenses de la part de l'État.
C'est certain. Vous pouvez faire un revenu universel très simple, vous donnez 1 euro à chaque Français par an. Ça fait à peu près 70 millions d'euros, c'est budgétairement digérable, mais ça sert strictement à rien. En effet, le sujet est d'aboutir à une somme relativement substantielle. Si vous voulez, dans le contexte français, puisque c'est un des sujets qui nous intéresse, c'est très compliqué d'envisager un revenu universel parce que nous avons déjà des mécanismes universels de protection sociale en matière d'assurance maladie. Qui que vous soyez, quelle que soit votre condition professionnelle, vous êtes pris en charge par l'assurance maladie. Qui que vous soyez, vous bénéficiez en matière de retraite d'un système de base qui s'appelle le minimum vieillesse et tout le monde a de la retraite. En matière de politique familiale, même s'il y a des modulations selon les revenus, à partir du moment où vous avez 2 enfants en France, vous avez des prestations familiales. Dans d'autres endroits dans le monde où on évoque le sujet, en Inde ou au Kenya, pour prendre 2 exemples, bien je pense que là, ce serait plus réaliste que d'imaginer l'implantation de ce type d'instrument. Toute dernière remarque, il faut avoir aussi à l'esprit, parce que là j'ai l'impression d'être la mauvaise mouche du coche, disant que c'est compliqué.
C'est un débat, c'est normal.
C'est un débat. Alors la dernière remarque, c'est que, on l'a pas vu, mais au Japon, ils viennent de verser un revenu universel pour une somme considérable. Chaque personne vivant dans l'archipel vient de toucher 850 euros dans les suites du coronavirus. Ça fait une somme totale de dépenses publiques de 100 milliards d'euros. Ça n'est pas un revenu inconditionnel, universel, tel qu'on l'entend généralement, parce qu'il n'est que ponctuel, il ne sera pas versé régulièrement, mais c'est un pas dans le sens, c'est vrai, de ces revenus de type inconditionnel. Donc j'ai commencé par dire que c'était ultra compliqué et pas forcément adapté au système français, mais il se trouve que dans le contexte très particulier dans lequel nous nous trouvons, d'autres pays innovent et innovent massivement, c'est vrai.
Alors, Marie-Alette Grard, à présent, on va continuer sur le fait que ce dossier du revenu universel est quand même revenu un peu sur le devant de la scène ces dernières semaines. Une forme de prise de conscience, même si on l'a entendu avec Julien Damon, c'est pas forcément très facile à mettre en place. Mais cette prise de conscience, elle s'est faite parce que les dirigeants ont vu les difficultés qu'ont rencontrées avec cette crise du coronavirus certaines catégories de population, les classes populaires évidemment, mais aussi les travailleurs indépendants, les petits commerçants, les artisans en période de crise, surtout là quand il y a confinement, tous les revenus s'évaporent. Cela veut dire que finalement le modèle social français peut-être, mais européen plus largement, n'est pas aussi bon qu'on le pensait.
C'est sûr que avec cette crise sanitaire, cette pandémie et ce confinement en particulier, ça a mis à jour la fragilité de notre système social pour les personnes les plus démunies de notre pays ou pour celles qui ont des revenus très fragiles. On a pu ainsi constater, nous, mouvement ATD Quart Monde, que les personnes qui ne sont que au RSA, si je peux me permettre de parler ainsi, c'est-à-dire qu'au revenu social, le revenu minimum, ont dû faire appel à des distributions alimentaires alors qu'elles ne le faisaient plus depuis bien longtemps. Et elles ont dû y retourner parce que cette période de confinement, cette période difficile avec des approvisionnements très proches de chez soi, etc., les a mis dans une grande difficulté. Et comme vous le disiez, on voit également toute une frange de la population avec des emplois précaires qui sont tombées encore un petit peu plus dans la précarité et obligées, elles également, d'avoir recours à des soutiens alimentaires pour leur famille.
Alors justement, est-ce que ce revenu universel, qu'il soit pérenne ou temporaire, comme on l'a entendu avec l'exemple du Japon, est-ce que ça pourrait permettre d'éviter de retomber dans ces difficultés-là en cas de prochaine crise ?
Alors écoutez, nous, à TD Quart Monde, nous avons comme philosophie de base, je dirais, de prendre le temps de réfléchir avec les personnes qui vivent dans la grande pauvreté. Donc nous l'avons fait il y a déjà un bon moment et nous continuons de le faire absolument régulièrement pour bien comprendre si ce revenu universel, il y a tous les termes qui englobent ce revenu, mais si vraiment il va profiter à tout le monde et en particulier les plus démunis. Parce que, ne nous leurrons pas, si ce revenu universel va leur enlever à la fois le RSA et les allocations familiales, mais ne pas remettre au bout la même somme que le RSA et les allocations familiales, alors évidemment, les familles qui sont dans une grande difficulté déjà au quotidien le seront encore davantage. Il s'agit pour nous, un point très important, c'est de pouvoir l'expérimenter autant dans le milieu rural que en ville, dans au moins 2 ou 3 endroits en France, et de l'expérimenter avec des populations de niveaux sociaux très divers, y compris bien évidemment les populations les plus démunies. Mais il ne s'agira en aucun cas pour nous de faire un revenu universel comme ça, pensé, sorti du chapeau, sans qu'il ait été expérimenté pendant quelque temps dans ces divers endroits et avec ces populations, comme je viens de vous le dire.
Alors justement, des expérimentations, il y en a eu, notamment il y a quelques années en Finlande. Jean-Éric Yaffi, la Finlande donc a testé sur une partie de sa population ce revenu universel. Ça a donné quoi comme résultat ?
Alors en vérité, ce n'était pas tout à fait un revenu universel parce que c'était un revenu ciblé uniquement sur des personnes qui étaient au chômage, en précarité. Donc c'était une sorte de RSA amélioré ou d'allocation chômage inconditionnelle. La seule différence, c'est que s'ils reprenaient une activité, ils pouvaient garder leur revenu. Donc on a comparé ils ont fait une expérimentation en comparant deux populations, une qui touchait le revenu universel et l'autre qui ne la touchait pas, ou plutôt qui touchaient le chômage sous les mêmes conditions, et ils se sont rendus compte, ils ont évalué la reprise d'emploi des deux populations, et ils ont vu que les gens touchent un revenu universel qui ne touche pas s'ils reprennent, qui ne change pas s'ils reprennent un emploi, ou alors qui touche une allocation chômage comme actuellement, qui pourrait diminuer s'ils reprennent un emploi, ne change rien à leur retour au travail. Mais c'est la seule manière dont ils ont évalué le revenu universel.
Alors ça, c'est la manière en termes d'emploi. Néanmoins, ils avaient fait également, si je ne me trompe pas, une étude d'ordre plus psychologique, de l'impact psychologique de ce revenu universel. Et là, les résultats étaient en revanche un peu plus positifs.
Oui, c'est certain. Dès lors qu'on est sûr d'avoir au moins un matelas de sécurité et une garantie, on peut plus facilement se projeter à l'avenir, on peut plus facilement prendre soin de ses problèmes de santé, s'équiper, et donc on est plus serein dans sa vie. Et ça, c'est une évidence que si vous assurez le revenu de chacun, eh ben ils ont les capacités accrues pour s'améliorer, s'occuper de leur sort.
Alors, on comprend bien que ce revenu universel, il est on va dire, il a différents impacts sur la vie des gens. Donc, ce côté, on va dire, psychologique, rassénérer les personnes qui peuvent le toucher. Également, mettre en place, s'il est bien créé, et ça, c'est Marie-Alette Grard qui le précisait, le resserrement du tamis de la protection sociale, faire que les gens, finalement, ne passent plus à travers les droits auxquels ils pourraient prétendre. Mais tout cela, forcément, a un coût, parce que ce revenu universel, il faut le financer. Alors, je vous parlais de Benoît Hamon tout à l'heure, candidat socialiste à l'élection présidentielle de 2017. Il faisait la promotion de ce revenu universel. Et pour lui, cela aurait pu coûter à la France 35 milliards d'euros par an pour une allocation de 600 euros. Est-ce que ce chiffre est réaliste ? Alors, je vais poser la question d'abord à Julien Damon.
Je ne le crois pas. Alors, Ce chiffre 35 milliards d'euros, ça existe, en soi réaliste. Si on veut financer un revenu inconditionnel tel que ceci a été évoqué, avec 35 milliards d'euros, ça fait à peu près une fois et demie le budget des minima sociaux qui représentent eux-mêmes 3% des dépenses de protection sociale. Voilà, plein de règles de 3, mais simplement pour dire que pour atteindre un revenu totalement inconditionnel, ça m'étonnerait vraiment qu'avec 35 milliards d'euros, on y arrive. Le sujet principal, Marie-Hélène Carr l'a amené à sa manière, c'est qu'avec le revenu universel, il y a en réalité deux idéologies différentes qui peuvent le soutenir. La première est une idéologie social-démocrate, certainement Monsieur Hamon, consistant à vouloir compléter le système de protection sociale, lui donner une base solide, mais c'est probablement pas avec le mécanisme qu'il évoque là, simplement d'un complément à 35 milliards d'euros. Il y a une deuxième idéologie que Marie-Hélène Carr a mise en avant comme étant problématique, enfin, elle ne l'a pas dit exactement ainsi, une idéologie très libérale qui consiste à dire, eh ben, on fait un revenu universel et c'est tout, les autres se débrouillent. Alors, avec 35 milliards d'euros, vous faites, en effet, potentiellement, un socle pour la population française, mais vous n'avez plus d'assurance maladie et plus de système de retraite. Voilà, enfin, je dis ça parce que c'est assez fondamental dans les idée qui traîne autour du revenu universel, vous avez quand même un prisme très large qui va de gens qui veulent compléter l'État-providence à des gens qui veulent totalement le détricoter.
Alors oui, parce qu'il faut finalement penser aux mécanismes de financement et là, en effet, les versions divergent. Jean-Éric Yafil, qu'est-ce qu'il existe finalement comme piste pour mettre en place ce revenu universel et comme l'a expliqué Julien Damon, là, il y a vraiment des idéologies qui se confrontent.
Alors, d'abord, je tiens à insister sur une chose, ce qu'avait proposé Benoît Hamon en 2017, ce fameux revenu universel financé à 35 milliards d'euros, n'était pas un vrai revenu universel, c'était une allocation dégressive, dont le montant diminuait à mesure que le revenu de l'individu qui touchait augmentait. Donc c'était une sorte finalement de RSA amélioré, si j'ose dire, avec le même principe, mais probablement revalorisé par rapport au RSA actuel. Voilà, les personnes qui sont aujourd'hui au RSA, ou alors les travailleurs pauvres, auraient eu un gain de revenu. Et je pense même que le gain de revenu aurait été plus important pour les travailleurs à bas salaire, ceux qui touchent le SMIC ou un petit peu moins que le SMIC, parce qu'ils sont à temps partiel. Voilà, ça c'est une précision importante. Le deuxième avantage de ce qu'avait proposé Benoît Hamon, c'est d'essayer de faire une allocation sans trou, en garantissant que absolument personne ne risque de passer entre les mailles du filet, et être certain que tous ceux qui ont droit à ce revenu universel le touchent. Mais il faut avouer que le revenu universel de Benoît Hamon n'était pas un revenu universel dans le sens où il n'était pas versé à tout le monde, y compris aux plus riches. Alors, je suis le vrai revenu universel, l'authentique que les puristes exigent, ce serait un revenu universel qui serait versé à tous, y compris aux plus riches. C'est difficile à comprendre, évidemment, vous allez tous me dire que ça coûterait beaucoup trop cher et c'est impossible à financer. Et c'est là qu'il faut comprendre que si on voulait mettre en œuvre une telle mesure, il faut l'analyser comme une réforme fiscale. Un vrai revenu universel versé à tous de façon inconditionnelle coûterait des milliards d'euros effectivement, mais si on le conçoit comme une réforme fiscale qui irait avec une réforme de l'impôt sur le revenu, dans lequel, pour faire rapidement, l'impôt sur le revenu serait prélevé dès le premier euro que vous gagnez, eh ben, on comprendrait que c'est finançable. C'est un peu trop technique pour que je l'explique à la radio, mais il faut bien comprendre que le vrai revenu universel, le véritable versé à tous, est une réforme fiscale, ou plutôt l'élément d'une vaste réforme fiscale.
Donc si l'on résume, on taxe davantage les revenus du travail pour financer le revenu universel.
Effectivement, pas uniquement les revenus du travail, aussi les revenus du capital, éventuellement aussi les autres revenus, pourquoi pas les revenus du patrimoine. Mais si on analyse l'ensemble comme une vaste réforme fiscale, ce qui nous intéresse, ce sera les effets redistributifs. Qui gagne, qui perd? Alors la question qui gagne, qui perd, ça dépendra évidemment de la prendre d'abord quel montant on choisit pour l'universel, et d'autre part, quel assiette de financement, quel mode de financement. Dans une simulation que j'avais travaillée à l'époque, où je prenais un montant à peu près équivalent au RSA et aux aides pour le logement actuel, et j'avais un financement qui permettait d'améliorer un peu substantiellement la situation des ménages modestes, pas forcément des plus pauvres, mais ceux qui gagnaient un SMIC, en gros, ou un SMIC, ou entre un SMIC et deux SMIC. En revanche, le financement pesait sur les ménages des classes moyennes supérieures et les ménages très riches.
Alors là, on est sur des modèles très européens, avec un impôt sur le revenu qui est payé par une très large partie de la population active, en tout cas potentiellement payé par une très large partie de la population active, avec une bancarisation qui est quasiment totale de la société. Comment on pourrait imaginer la mise en place de ce type de revenu universel dans des pays en développement où là, la situation est plus complexe, avec des économies souterraines plus développées, avec des gens qui n'ont pas forcément de compte bancaire, avec des États qui sont moins rodés à ce système de redistribution sociale? Marie-Laëtte Graff, vous pensez que finalement, ce revenu universel, il est universel aussi dans sa portée? Tous les pays de la planète pourraient envisager de le mettre en place?
Alors, si vous me permettez, avant de répondre à cette question, je veux tout de même vous dire que un revenu universel en France, il serait important, mais il faut quand même que l'on arrête qu'il y ait des millions de personnes dans notre pays qui soit en survie au quotidien, avec un quotidien absolument insupportable et qui est totalement indigne d'un pays comme le nôtre. Donc, réfléchir à un revenu universel, oui, bonne idée pour notre pays. Je le redis, il faut absolument l'expérimenter, parce que M. Yaffi vient de le dire, le revenu universel dont il vient de parler, les plus pauvres, ça n'amenait rien pour eux. Et si on n'expérimente pas avec les personnes les plus pauvres, ça ne leur amènera rien. Et ça, ça ne peut pas durer, parce que ça ne fait qu'augmenter dans notre pays le nombre de personnes qui vivent dans la pauvreté et dans la grande pauvreté. Alors je réponds à votre question, excusez-moi, mais évidemment, on pourrait imaginer à travers le monde, mais quand même, tant de personnes à travers le monde, dans des pays en Afrique, pour ne citer que l'Afrique, vivent sans aucune protection sociale. Peut-être qu'avant de réfléchir à un revenu universel, peut-être faudrait-il d'abord que chacun de ces pays réfléchisse à une protection sociale pour chacun des habitants de ces pays. Ça me semble déjà une première mesure qui serait quand même assez indispensable.
Une sécurité sociale avant le revenu universel.
Mais oui, parce que c'est quand même aussi la protection sociale, c'est tout de même la première chose qui permet aux gens de tenter de vivre dignement comme les autres, à égale dignité comme les autres, si on ose le dire comme ça. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que quand on parle de revenu universel et qu'on parle des personnes les plus pauvres, la plupart des temps, dans la tête des personnes qui nous entendent, c'est de dire, bah oui, les plus pauvres, bah avec ça, comme ça, ils vont vraiment continuer à ne rien faire et à ne pas vouloir travailler. Alors moi, je veux quand même affirmer ici que les plus pauvres, comme tous les autres, ils aspirent à un emploi, à un travail digne de ce nom et à pouvoir amener un salaire à la maison comme tout un chacun. Ça, c'est quand même la première chose. Et le revenu universel, si nous voulons qu'il soit expérimenté avec les plus pauvres, c'est justement aussi pour montrer que les plus pauvres, comme les autres, ils veulent travailler et ils veulent être reconnus comme les autres.
Alors, Julien Damon, je vais vous demander de rebondir là-dessus, parce que cette question de dignité sociale, c'est-à-dire d'avoir une existence reconnue par la société, est-ce que le revenu universel ne viendrait pas se heurter à ça en finalement donnant de l'argent sans permettre aux personnes de pouvoir s'intégrer, entre guillemets, dans la société?
Je vais vous faire une réponse en deux temps. La première, pour dire combien, de mon point de vue, du côté philosophique, le revenu universel, dans l'épure superbe du projet, pourrait permettre à tout à chacun de vivre dans la dignité. Et mon deuxième temps, ne vous inquiétez pas, ce sera rapide, c'est pour aller exactement dans le même sens que Marie-Laëtte Graff par rapport à la réalité. Dans la sphère des idées, le revenu universel, inconditionnel, versé à tout le monde, c'est pas un outil de lutte contre la pauvreté, c'est d'abord un outil de lutte en faveur de la liberté. C'est permettre de refuser un emploi qui serait relativement bien payé, mais qui serait inintéressant, et à l'inverse, permettre d'exercer certaines activités très intéressantes, mais extrêmement mal rémunérées. Donc c'est superbe sur le principe, vraiment. À l'inverse, tout de même, dans la réalité, aujourd'hui pour permettre aux gens qui vivent dans l'indignité, c'est pas en leur promettant un revenu inconditionnel qu'on améliorera leurs conditions de vie. Pour le terminer sur une dernière phrase, je crois qu'en effet, on peut y réfléchir dans des pays en développement qui s'intéressent à savoir les voies et moyens pour développer leur protection sociale, avoir un socle de prestations minimales de base. Je pense que c'est une excellente idée, mais dans le ciel des idées, le revenu universel, c'est à mon avis bon pour la planète Mars.
D'accord, donc c'est pas pour tout de suite. Est-ce que finalement, c'est une idée luxueuse, ce revenu universel, c'est-à-dire que elle est belle sur le papier, mais seuls des pays à rente pétrolière, puisque Jean-Éric Yafil, je crois, vous parliez de l'Alaska, est-ce que ça n'est lié finalement qu'à des revenus financiers extrêmement importants et donc contraire à la réalité sociale de la grande majorité des pays?
La question est pour moi, j'imagine.
Oui, Jean-Éric Yafil, ça sera pour vous.
Oui. Écoutez, juste avant l'émission, j'entendais ce qui se passait à Mayotte où le confinement était très compliqué parce qu'il y avait une forte population, pas uniquement mahoraise, mais surtout des immigrés comoriens qui n'ont d'autre choix que de survivre et donc qui ne peuvent pas respecter le confinement et qui doivent voler pour survivre. Si dans les pays en développement, le revenu universel, même un petit revenu universel minime, pouvait permettre au moins à chacun de pouvoir se payer sa ration alimentaire quotidienne, ça permet aux gens, non seulement à chacun, de se projeter dans l'avenir et de pouvoir construire son avenir, mais surtout de ne pas subsister en volant son voisin et en détruisant des récoltes ou par la criminalité. Donc paradoxalement, il n'est pas impossible que dans les pays en développement, le coût du revenu universel, le coût financier du revenu universel soit plus faible que le coût de ne pas avoir de revenu universel, c'est-à-dire le coût en termes de sécurité dans les rues, le coût en termes de... le fait de ne pas avoir un universel peut conduire chacun à être violent pour survivre. Donc je pense que les pays en développement pourraient se poser la question de réfléchir à comment faire pour que les plus pauvres d'entre eux ne doivent pas mendier
verser éventuellement dans le crime, oui, on a compris. Mais alors, c'est d'ailleurs ce que l'Inde envisage de faire, puisque l'Inde envisage de verser une somme à ses habitants les plus pauvres, justement pour éviter d'être tout de suite dans la difficulté face à cette crise.
Je pense justement que pour l'Inde, qui est quand même un pays très inégalitaire, mais qui n'est pas pauvre, qui a quand même énormément de ressources, qui s'industrialise, dans lequel il y a une classe moyenne et une classe supérieure très très riche, je pense qu'ils auraient les moyens de garantir un revenu universel, même totalement universel ou peut-être uniquement pour les plus pauvres, qui permettrait d'éviter effectivement une multiplication de la criminalité dans certains quartiers et qui permettrait globalement à toute la population de se projeter vers l'avenir.
Marie-Hélène Grard, vous vouliez réagir?
Oui, excusez-moi, je voulais juste faire un clin d'œil pour... j'ai entendu aussi la fin de l'émission précédente sur Mayotte, qui est un département français, hein. Ne l'oublions pas.
Tout à fait.
Donc, voilà, c'est quand même... et dans des conditions de vie tout à fait insupportables, mais également par ici, autant dans les Hauts-de-France que dans le sud de la France ou à Paris, des gens qui vivent en bidonville et qui, pendant le confinement ou pendant cette période de crise sanitaire que nous vivons, n'ont même pas l'eau courante à disposition et donc aucune possibilité de se laver régulièrement les mains, etc. Donc, revenu universel, oui, pourquoi pas, expérimentons-le s'il y a un projet intéressant. Mais n'oublions pas que nos concitoyens, tout un chacun, veut d'abord accéder à un emploi, à un logement, à un droit à la santé aussi, comme tous, pour pouvoir se soigner. Et je pense que dans les pays africains, par exemple, ou en Inde, se pouvoir se soigner, que tous puissent se soigner, est aussi très important.
Eh bien, je vous remercie, Marie-Alette Grain. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'ONG ATD et Quart Monde. Merci également à Julien Damon, sociologue et professeur associé à Sciences Po, auteur de l'ouvrage « Quelle bonne idée sans proposition, plus ou moins saugrenue dans l'espoir de refaire le monde ». Et merci à Jean-Éric Yaffi, l'économiste. En seul.